elle se fonde aussi sur le fait qu'en réalité, on est dans l'attente de biens qu'on ne possède pas encore. On les goûte déjà dans une certaine mesure, mais on ne les voit pas, on ne les a pas complètement à disposition. Et c'est ça qui fait la vie de l'espérance. Et donc on pourrait se dire, une fois que je possède les biens espérés, une fois que je serai en Dieu, dans le mystère final, eh bien, normalement, c'est la fin de la foi et de l'espérance, diront les grands scolastiques. Balthazar lui dit non, nous allons continuer de vivre de foi, d'espérance et de celle dont nous savons tous que, parce que là tout le monde est d'accord qu'elle demeure, c'est-à-dire la charité. Voilà. Donc voilà, ça va faire un petit parcours balthazarien, particulièrement à travers un de ses articles qui a été publié en 1984 dans la revue Communio, dont votre ancien aumônier et votre aumônier actuel sont membres du comité de rédaction. Donc c'est une revue véritablement balthazarienne et ratzingerienne. Et donc sur cet article qui s'appelle « Les vertus théologales sont une », vous verrez, et puis sur un livre qui avait un peu fait sensation à l'époque où Balthazar l'avait sorti, qui a été très discuté, qui s'appelle « Espérer pour tous », c'est-à-dire jusqu'où pouvons-nous espérer? Est-ce qu'on peut espérer pour absolument tout homme en ce monde? Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à espérer, comme l'a dit notre pape François il n'y a pas longtemps, que l'enfer soit vide, en tout cas vide d'humains, voilà, hein, vide d'hommes et de femmes comme nous. Voilà, donc jusqu'où va s'élargir l'espérance? Donc c'est une petite promenade dans la théologie de Balthazar. Et pour ça, je voudrais commencer déjà par dire un petit peu ce qui est en fait une évidence, mais l'espérance, elle est souvent méditée dans la foi comme le propre du chrétien. Donc je vous donne deux références qui sont un peu des fondements dans cet esprit-là. Donc la première, de la première lettre aux Thessaloniciens, donc c'est un truc que vous entendez tout le temps dès qu'il y a un enterrement, parce que quand on enterre quelqu'un, quand on se retrouve face au mystère de la mort, c'est quelque chose qu'on aime à se rappeler. « Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. » Donc, où se fonde l'espérance chrétienne? L'espérance chrétienne, elle se fonde radicalement dans la résurrection du Christ. Et on va considérer, au fond, que c'est quelque chose qui est le propre du chrétien, c'est en fait d'être ancré, d'avoir son ancre dans le ciel, dans la certitude d'une vie pour toujours où tous seront rassemblés. Enfin, tous, en tout cas une multitude. Voilà, moi je reviendrai sur le tous plus tard. Hein. Mais donc, ce qui nous projette, c'est l'Épître aux Hébreux qui va utiliser cette image au chapitre, vous irez vérifier parce qu'il y a des références, je les cite simplement de mémoire, dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, l'auteur va dire explicitement « nous avons une encre dans le ciel », et l'encre est devenue le symbole même de l'espérance, je le rappelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a déjà les arts des cieux qui nous sont donnés dans la résurrection du Christ. Dans la résurrection du Christ, nous croyons que si l'un de nous est revenu de la mort, alors c'est Dieu fait homme, mais néanmoins c'est l'un de nous, eh bien nous aussi, nous ressusciterons. Et l'autre chose, qui est l'autre citation un peu fondatrice, c'est l'Épître aux Éphésiens. Voilà, et donc je lis simplement le passage central. « Vous étiez étrangers aux alliances et à la promesse. » Donc Paul s'adresse à des païens. Ça veut dire que vous n'étiez pas entrés dans toute cette annonce, cette histoire de multiples annonces que Dieu a fait à son peuple au fil du temps, qu'il allait lui donner finalement la récompense de sa confiance qui se projette vers l'avenir, puisque l'ensemble des alliances vétérotestamentaires sont projetées vers un avenir qui vient de Dieu, du coup, il dit « Vous n'aviez pas d'espérance dans le monde et vous étiez sans Dieu. » Donc, je préviens tout de suite, parce que c'est quelque chose que je ne vais pas explorer beaucoup là, dans ce temps avec vous, on pourrait très bien opposer à ça, de dire « Pas du tout, au contraire, ce qui fait qu'on espère ici-bas, c'est qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut remplir cette vie en se disant qu'on va construire un monde qui sera meilleur. Et donc, ce qui va construire la véritable espérance, ça sera quelque part de préparer un avenir radieux à l'humanité en déployant les efforts humains. Hein. Ça, si vous voulez un éclairage là-dessus un peu différent, vous allez lire Space Alvi hein, de Benoît XVI, où Benoît XVI déploie vraiment cette question-là sur la question de l'espérance. Il prend vraiment en compte, entre guillemets, l'objection contemporaine, et notamment l'objection qui va relier à je ne sais plus si c'est Giordano Bruno, ou si c'est, je vais vérifier, ou si c'est Bacon. Mais en tout cas, il va prendre en compte hein, le fait que certains ont dit, ben, finalement, la science va résoudre les problèmes de l'homme, et c'est d'elle que nous devons attendre le salut pour nous. Et puis, il va expliquer que cette espérance purement à l'échelle terrestre, c'est reformulée dans le marxisme, et que ce qui redonne une certaine actualité à l'espérance chrétienne, c'est qu'on a vu que l'expérience marxiste n'avait pas conduit, voilà, c'est Francis Bacon, n'avait pas conduit à la réalisation annoncée hein, de toutes les promesses de manière purement terrestre. Donc, le mouvement de l'espérance, hein, c'est ce qui est créé par la résurrection du Christ, par celui hein, qui, à la fois, donc, crée une espérance par rapport à la résurrection et donc face à la mort, et une autre espérance qui est celle que ceux qui étaient loin de Dieu sont désormais proches de lui. Hein, donc d'un côté, vous voyez, il y a une limite qui est vaincue, celle de la mort. Et donc c'est ça qui va fonder l'espérance chrétienne, hein, que nous sommes nés un jour, mais nous vivrons pour toujours. Hein, nous sommes nés et nous ne mourrons jamais plus. Et puis d'un autre côté, que cette expérience, cette résurrection du Christ, nous relie aussi à Dieu, hein, fait que le lien avec Dieu est profondément renoué, et que dans cette relation à Dieu, eh bien, se joue le fait que, pour nous, eh bien, on peut entrer dans une mutualité qui nous est promise. Donc l'espérance, elle est d'emblée tournée vers une communion et vers une multitude. Alors, chez Balthazar, l'espérance, cette vertu donc, qui, en quelque sorte, nous fait déjà goûter les biens à venir, elle est toujours prise entre les deux autres vertus théologales, hein, c'est-à-dire entre la foi et la charité. Pour Balthazar, en fait, alors je vais commencer par montrer un petit peu comment en fait, les vertus se recoupent les unes les autres, à travers la définition que Balthazar va donner de la foi. Dans son article sur les vertus théologales, il va dire la foi est la réception d'un don extérieur à qui le reçoit, et la libre décision de recevoir, la confiance radicale qui y est exprimée autorise du coup la foi à être certitude objective, si forte que Paul peut en parler purement et simplement comme d'une connaissance, et Paul dit « Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à partir du moment où j'entre dans la foi, ma confiance en Dieu, qui est déjà une confiance en fait qui me projette vers lui, ouvre mes yeux d'une manière nouvelle. Voilà. Et fait que je ne suis pas simplement dans une sorte de connaissance un peu vague de choses que je ne pourrais pas entrevoir, mais je suis dans une nouvelle ouverture de ma connaissance à partir de cette foi en fait, qui est liée à l'espérance, puisque c'est l'espérance qui toujours projette la foi en avant vers sa réalisation finale. Donc on peut dire que ce qui donne ça solidité à l'expérience de la foi, c'est d'être finalement toujours projeté en avant par l'espérance. Ça, on le verra la semaine prochaine. Hein, c'est Balthazar, là-dessus, est très héritier de Peggy. Balthazar est un des grands lecteurs de Peggy. Il a traduit Peggy en allemand. C'est lui qui a fait connaître Charles Peggy dans le monde allemand. Et évidemment, pour Balthazar, la grande image de l'espérance, c'est la petite sœur espérance qui tient les deux autres vertus, qui n'a l'air de rien, mais qui en fait les tire et leur donne leur élan fondamental. Hein. Et donc la foi pour Balthazar va être absolument inséparable de l'espérance, hein, un petit peu comme c'est dit aussi dans l'épître aux Hébreux, où on dit « la foi est la substance des réalités que l'on espère ». C'est elle qui finalement se donne son assise à ces réalités qui en même temps nous sont déversées hein, par cette expérience de la foi. Donc la foi est toujours à la fois animée par l'espérance, tirée vers l'espérance, et en même temps la foi produit l'espérance, parce que plus je fais d'actes de foi, plus je vais entrer dans une endurance, ça c'est au chapitre 5 de l'Épître aux Romains, plus ma foi va être éprouvée à travers les différentes épreuves que je vais vivre, à travers les joies, mais aussi à travers les peines, plus je vais me rendre compte que cette foi, eh bien, elle est solide, plus je vais faire confiance à ce vers quoi je suis tendu. Et donc, la foi et l'espérance sont toujours dans une tension permanente et dans une compénétration permanente, pourrait-on dire. Et de la même manière, il va dire, il va méditer la charité, voilà, en disant « L'amour de Dieu qui livre son Fils surpasse toute connaissance. » Eh bien, dans ce mouvement-là, la charité est un élan dans l'infini qui, selon Grégoire de Nice, est à la fois envol et repos, et qui, selon Paul, récapitule tout le dynamisme de la foi et de l'espérance. Et là, il va citer la fameuse hymne à la charité, hein, qui est au 13e chapitre de la lettre aux Corinthiens, que souvent on traduit en disant que l'amour fait confiance en tout, hein, l'amour, en fait, ce qui est dit, hein, littéralement en grec, « panta pistei », hein, la charité croit tout, l'amour croit tout, « panta helpizei », il espère tout. Donc ça veut dire que le mouvement même de l'amour, parce que l'amour est dynamique, parce que l'amour n'est pas simplement une sorte d'état qui se tiendrait dans une sorte de pure d'immobilité ou de stabilité simple, mais qu'il est toujours dans un mouvement de lancer et qu'en même temps il se repose en lui-même, c'est à partir de là, hein, qu'il va être toujours lui-même lié à la charité. Ce qui va conduire en fait Balthazar à dire au fond, hein, que les trois vertus, hein, théologales ont chacune leur structure propre, c'est-à-dire que la foi finalement me donne de croire ce que je ne vois pas sur le fondement de Dieu qui s'est révélé à moi. L'espérance, elle, va me donner de goûter déjà par avance ce qui m'est donné même si je ne l'aperçois pas encore. Et la charité, bah, va me donner de vivre de la vie même de Dieu en, finalement, en vivant du mouvement des deux autres vertus théologales. Mais Balthazar va dire, au fond, elles se recoupent, et donc il va utiliser une analogie, il va dire, au fond, elles sont consubstantielles. Alors là, évidemment, il prend un terme de théologie trinitaire, hein, puisque on va dire, hein, on le dit dans le credo, à chaque fois que nous disons le credo Nicée-Constantinople à la messe, hein, nous disons que le Fils est consubstantiel au Père. Ça veut dire quoi? Hein, ça veut dire qu'il est un seul être avec le Père. Hein, là, le sens de substance est un peu particulier, parce que c'est un sens qui est un peu variable à la fois en théologie trinitaire et en christologie. Mais l'idée, quand nous disons que le Christ, hein, le Fils unique, est consubstantiel avec le Père, c'est qu'il est un seul être avec Dieu. Il est à la fois différent du Père, il est une autre personne que le Père, et pourtant, il n'est qu'un avec lui. Hein. Bien, l'expérience des vertus théologales, c'est au fond qu'elles ont chacune leur particularité, mais au fond, elles sont une en étant chacune unique. Hein, voilà, donc c'est un peu ce qu'il dit ici. Et à la suite, il va reprendre en disant l'unité, et au fond, il va parler de la péricorèse des vertus théologales. Qu'est-ce que c'est que la péricorèse, hein, en théologie trinitaire, ça va être le fait que nous croyons en un Dieu unique en trois personnes. Hein, et donc ça veut dire que le Père n'est absolument pas pensable sans le Fils. Le Fils n'est absolument pas pensable sans l'Esprit. Donc si je dis que le Père, si je cherche à parler du Père dans la Trinité, je vais toujours dire le Père est la source jaillissante, éternelle de l'amour en Dieu. Le Fils va être la réception éternelle en Dieu de cet amour qui se donne totalement sans rien garder de lui-même. Et en même temps, une offrande en retour, une action de grâce, une Eucharistie éternelle par laquelle le Fils se rend totalement au Père et s'offre lui-même sans cesse. Hein. Et puis l'Esprit, eh bien, va être le fait que l'amour en Dieu est une telle puissance, si l'on peut dire, une telle force qu'en fait lui-même, l'amour même, hein, est personnel. Il n'y a pas simplement le Père et le Fils qui se regarderaient dans une sorte de miroir et de renvoi simplement l'un à l'autre, mais l'amour lui-même qui intervient comme une sorte de dépossession éternelle en Dieu. Hein, on dit que l'Esprit Saint est ce qui a en propre, l'Esprit Saint a en propre ce que le Père et le Fils ont en commun. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, il est esprit, il est amour, il est circulation de cet amour, et surtout, il n'est ni le Père ni le Fils, ce qui veut dire que l'amour est quelque chose qui vient nous tirer hors de nous-mêmes. Hein, et en Dieu, il est voilà, cette troisième personne. Mais évidemment, l'Esprit n'est absolument pas pensable sans le Père et le Fils, Le Fils n'est pas pensable sans le Père, hein, qui, en lui donnant, en se donnant totalement dans l'amour, lui donne de se recevoir et en même temps de se rendre éternellement en spirant l'Esprit, comme on le dit en théologie trinitaire. C'est-à-dire aucune des personnes trinitaires ne peut être dite individuellement. Et c'est en ça que notre Dieu est véritablement un Dieu unique. Parfois, on peut glisser, hein, dans notre vie chrétienne sur une profession de foi un peu dédoublée, où d'un côté nous disons « je crois en un seul Dieu », mais dans la pratique, comme dans la prière, on s'adresse aux personnes, on s'adresse au Père, on s'adresse au Fils, on s'adresse à l'Esprit, ben, le risque c'est de glisser un peu vers une forme de trithéisme, hein, si on veut, et donc il faut toujours avoir cette espèce de... Bon, se laisser dépasser, hein, parce que ce que je viens de faire, c'est uniquement... je viens uniquement de balbutier devant vous, mais je me sens assez à l'aise pour le faire, parce qu'au fond, après plusieurs livres dans son De Trinitate, Augustin finit par dire « Bon, j'ai prononcé le nom personne, parce qu'il faut bien dire quelque chose, mais au fond, je devrais même pas dire trois personnes en Dieu, parce que dire trois personnes, c'est comme si je pouvais résorber le Père, le Fils et l'Esprit-Saint sous un genre qui serait le genre personnel, alors qu'en fait, chaque personne est tellement unique que dire trois personnes, c'est déjà utiliser un même mot pour trois réalités qui ne sont absolument pas recoupables. » Donc, il faut que nous, dans notre acte de foi, hein, et c'est toujours important, on ait cette forte conscience, hein, de la péricorèse des personnes divines, c'est-à-dire de leur, alors en latin, de leur circumincession, hein, c'est-à-dire, ce qui traduit bien ce mouvement, hein, de cette compénétration, hein, des personnes divines qui font qu'elles sont un seul Dieu. Et donc, appliqué en fait à l'espérance, ce qui est très intéressant, hein, c'est que qu'est-ce que ce serait, hein, qu'une foi, par exemple, une capacité à nommer Dieu, qui n'aurait pas la tension vers les biens à venir et qui ne vivrait pas déjà de ce qui nous est donné d'avance. Quelle serait la consistance d'une foi qui se contenterait, par exemple, de dire « je crois que Dieu existe et je crois un certain nombre de contenus » sans en fait l'élan qui la projette vers Dieu, qui fait de la foi pas seulement une connaissance, mais qui fonde la connaissance de la foi sur la confiance qui fait tendre et qui nous donne de nous reposer en Dieu. Qu'est-ce que serait une foi sans charité? Il suffit d'y penser, hein, c'est très simple, c'est quand les démons disent à Jésus dans l'Évangile « Nous savons qui tu es, le Fils de Dieu », à la fois ils disent une vérité, et en fait ils sont en train de mentir, pourrait-on dire, parce qu'en fait, ils ne savent pas vraiment qui est le Fils de Dieu, parce que la seule possibilité de connaître qui est le Fils unique, c'est en fait d'être touché par son amour, d'être rejoint par l'amour du Christ, et de lui rendre cet amour. C'est un peu comme si, pour donner une autre comparaison, on disait que deux époux se connaissent, mais sans s'aimer. Ce ne sont pas des épousailles. En réalité, ce qui fait que deux époux se connaissent mieux que personne sur la terre, c'est précisément qu'ils s'aiment. L'amour ne fait pas que rendre aveugle, comme dit l'adage, il rend la vue. Voilà, donc ce que dit Balthazar là, sur l'espérance, en liant très profondément l'espérance à la foi et à la charité, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement profond, hein, sur le mouvement, sur la dynamique intérieure des vertus théologales. Et c'est ça qui va permettre aussi à Balthazar de dire qu'au fond, l'espérance demeure, parce qu'au fond, il va la fonder dans l'être même du Christ. Alors là, évidemment, il est en train de méditer, hein, le chapitre 13 de l'hymne aux Corinthiens. Hein, vous connaissez ce passage formidable, hein, si j'avais l'amour à une foi à déplacer les montagnes, etc. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Hein. Et ça, saint Paul dit ces paroles dans une méditation où il est en train de parler à la communauté de Corinthe, où en fait les gens de la communauté de Corinthe survalorisent un certain nombre de charismes. Ceux qui chantent dans des langues extraordinaires, ceux qui sont capables d'interpréter, ceux qui sont capables de prophétiser. Hein, donc alors, ça se vit aujourd'hui dans l'Église, encore aujourd'hui, hein, il y a dans la vie charismatique, dans les communautés nouvelles, il va y avoir souvent ce qu'on appelle ces paroles de connaissance, hein, qui peuvent être véritables. Hein, moi, pour le coup, j'ai été témoin de choses dont je suis certain que la personne avait eu une parole de connaissance, hein, dans des choses qui ont touché de très près ma famille. Mais si on se laisse juste fasciner par cette espèce de pouvoir qui serait donné par l'Esprit-Saint, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que saint Paul s'adresse à la communauté de Corinthe en disant « Ne vous laissez pas fasciner par les charismes. Les charismes sont juste là pour l'édification de l'Église, mais les charismes passeront et demeurera ce qui, pour le coup, doit demeurer dans l'éternité. » Et c'est à ce moment-là que saint Paul donc, laisse s'élever cet hymne à la charité, qui, à l'intérieur de l'hymne, je rappelle, dit « La charité croit tout et espère tout », et il termine en disant hein, « L'amour ne passera jamais ». Et il dit « Voilà, les langues passeront, les prophéties seront achevées, hein, mais ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande des trois, c'est la charité ». Alors, sachant que dans ce qui demeure aujourd'hui, hein, ce « aujourd'hui » qu'on vous traduit dans la traduction liturgique, chez Paul, en fait, ce « nun hein, » en fait, n'a jamais un sens véritablement temporel. Il a un sens qui est adversatif. Hein. Donc, en fait, l'idée pour lui, c'est d'opposer les charismes qui passeront à ce qui va demeurer ici-bas. Et c'est pour ça que... Ce qui va demeurer, pardon, dans l'éternité. Et c'est pour ça qu'il va dire « Notre connaissance qui est dans un miroir et en énigme sera abolie. Pourquoi ? Parce qu'un jour, notre connaissance sera plénière. Nous verrons Dieu. Voilà, et nous serons vus de lui. C'est notre espérance. C'est notre foi. Et donc, nous ne verrons plus en énigme. Mais les charismes qui sont destinés à la vie de l'Église ici-bas cesseront, mais il dit, alors il le dit sous la forme d'une hypothèse, mais que je trouve quand même très intéressante et qui va sembler intéressant de vous partager. Il est permis de se demander si les trois qui demeurent ne vont pas survivre au temps. Cela certes suppose une métamorphose de la foi et de l'espérance, surtout selon Romains 8, 24, 25, donc je vous ai mis la citation en dessous, hein, puisque Romains 8, 24, 25 va dire « Nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment l'espérer encore? Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Donc, dans l'Épître aux Romains, Paul va opposer particulièrement hein, une certaine condition de l'espérance ici-bas qui garde une certaine dimension d'obscurité à la dimension finale où nous vivrons, nous entrerons dans une grande clarté. Et donc, à ce moment-là, il va dire bah, « Cette espérance-là qui ne voit pas ne survit pas. » Mais la question qui est posée, à travers le fait que les vertus théologales, eh bien, finalement, ne fassent qu'un, c'est le fait que, en fait, cette foi et cette espérance puissent continuer d'être véritablement vécues, même si ce sera d'une manière nouvelle. Et là, je pense que l'hypothèse balthazarienne, elle est extrêmement, non seulement... intéressante, mais je pense valable, parce qu'il faut aussi penser à ce qu'est une vertu théologale, et l'espérance est une vertu théologale. Les vertus théologales nous font vivre, dès ici-bas, de la vie même de Dieu. Hein, c'est leur définition dans notre foi. Et donc, si s'ouvre en nous quelque chose qui est la vie même de Dieu, si ces vertus surgissent hein, des profondeurs même de la vie divine, alors hein, nous pouvons légitimement penser que pour toujours demeurera quelque chose du mouvement de la foi et de l'espérance. Alors, Balthazar va s'appuyer, c'est pas moi qui trouve cette référence, hein, il s'appuie sur un texte d'Origène que j'ai pas réussi à retrouver là, aujourd'hui, la journée était un peu trop courte, mais en revanche, hein, dans le Contre les Hérésies, saint Irénée de Lyon va prendre position de manière assez concordante. Hein. Donc il va dire qu'il y a un certain nombre de questions que nous abandonnons à Dieu, et je trouve ça très impressionnant, et cela non seulement dans le monde présent, mais même dans le monde futur, afin que toujours Dieu enseigne, et que toujours l'homme soit le disciple de Dieu. Il ne devrait pas y avoir de point d'interrogation. Car selon le mot de l'apôtre, quand sera aboli ce qui n'est que partiel, ces trois choses demeureront, à savoir la foi, l'espérance et la charité. Toujours en effet, la foi en notre maître demeurera stable, nous assurant qu'il est le seul vrai Dieu, en sorte que nous l'aimions toujours, parce qu'il est le seul Père, et que nous espérions recevoir et apprendre de lui toujours davantage, parce qu'il est bon, que ses richesses sont sans limite, son royaume sans fin et sa science sans mesure. Qu'est-ce qui nous est dit à travers ça? Je pense que c'est extrêmement puissant. C'est que le mystère de la vie céleste, de la vie éternelle, Ratzinger, entre parenthèses, dans son encyclique sur l'espérance, a des passages absolument magnifiques là-dessus, pour dire au fond, est-ce que les chrétiens eux-mêmes espèrent vraiment la vie éternelle? Est-ce que les gens ont envie de la vie éternelle? Et bien, Ratzinger répond, je trouve toujours avec son audace habituelle, en disant, non, parce que, alors il ne cite pas Woody Allen, mais à la manière de Woody Allen, ils se disent, l'éternité c'est long, surtout à la fin, ouais, vous voyez. L'idée c'est un peu, on a énormément de mal à se projeter vers l'éternité, parce que nous imaginons une sorte de durée indéfinie. Nous pensons l'infini comme un indéfini. Hein. Évidemment que la vie éternelle, telle qu'un chrétien devrait la comprendre, elle n'est pas une sorte de temps dilué, mais elle est un temps ramassé. Hein. Ce que dira saint Paul dans une de ses lettres, hein, le temps, c'est en quelque sorte ramassé. Voilà. Et le temps se ramasse dans les temps derniers parce qu'en fait nous approchons de la plénitude, hein, la vie éternelle, ce sera cette plénitude, non pas une sorte d'absence de temps ou d'indéfini, mais une plénitude présente. Et si Ratzinger dit très bien, si on cherche des expériences de notre vie, hein, nous vivons certaines fois des moments où nous disons, c'est ça la vie, c'est ça la vraie vie. Moi, ça m'arrive justement dans des grands repas avec des gens que j'aime, des choses. Et c'est pas une image banale, hein, parce que c'est l'image que Dieu lui-même emploie dans la Bible. Hein. Il dit un jour, je vous rassemblerai sur ma montagne pour un festin de viande grasse, hein, et de vin capiteux. Bon, alors ça paraît un peu curieux que Dieu nous dise bon, vous allez voir, ce sera une super bouffe. Mais en réalité, nous le vivons déjà. Hein, un des autres moments où je me dis très souvent, mais combien, presque chaque année, hein, je sens quelque chose du ciel juste avant la célébration de la messe chrismale, où j'ai regretté de ne pas vous avoir invité parce que cette année encore c'était vraiment magnifique, où tous les prêtres se réunissent autour de leur évêque pour renouveler les engagements de leur sacerdoce. Et dans la préparation, quand on est en train simplement de s'habiller, qu'on n'a même pas encore commencé la célébration, on entend le chœur diocésain qui répète, on entend une espèce de rumeur, on entend ce peuple chrétien qui se prépare à la liturgie. Je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument bouleversant. Peut-être encore plus que quand je suis dans la liturgie, parce que dans la liturgie, moi je suis dans l'action, on est pris par ce qu'on doit faire, dire, etc. Il y a un mouvement où on se laisse prendre et où on se dépossède peut-être même de ce que parfois on peut ressentir. Mais juste avant, voilà, une espèce de moment de frémissement, et je pense toujours à la Jérusalem d'Angle. Je me dis toujours, nous serons dans cette relation, dans cette ouverture plénière de nos relations de tous à tous, parce que nous serons pris dans le mouvement qui anime Dieu lui-même. Et l'éternité à laquelle nous aspirons n'est pas une sorte de club vacances super, super, super bien organisé que Dieu aurait prévu. Le lieu de l'amour final, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que, et saint Paul le dit, hein, au 17e chapitre des Actes des Apôtres, quand Paul prêche à Athènes, il dit « En lui, en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Hein, » Si Dieu avait créé le monde extérieurement à lui, il pourrait y avoir un englobant qui engloberait Dieu et sa création. Non, la création, elle est à la fois vraiment autre que Dieu, nous ne sommes pas panthéistes, et pourtant, en fait, elle est dans un espace qui lui est déjà comme intérieur, et l'enjeu de notre accomplissement humain, de l'amour dont nous vivons déjà, mais dont nous serons appelés à vivre éternellement, c'est de nous laisser finalement pleinement inclure dans ces relations trinitaires. Et c'est pour ça que l'espérance est vraiment quelque chose que nous avons à comprendre dans le mouvement même de la vie trinitaire. Et c'est ce que va dire Balthazar, là encore dans des paroles très très belles. Ultimement, on ne peut que mettre en évidence la compatibilité. Alors ça c'est un peu aussi parce que bon, lui, il va dire au fond, est-ce que Jésus avait déjà quelque chose de la foi et de l'espérance si nous vivons la foi et l'espérance et que nous sommes fondés en lui, donc ça a fait beaucoup de débats. Il a aussi sorti un livre qui s'appelle La foi du Christ. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, mais non, Jésus n'a pas la foi. Hein, pourquoi? Parce que ça vient notamment de Thomas d'Aquin. Puisque c'est le Verbe incarné, Jésus est Dieu, donc il connaît tout, il est omniscient, il est toujours en lien avec son Père. Donc techniquement, il ne peut pas avoir la foi, puisque la foi implique une certaine dimension d'obscurité, et donc la foi nous est réservée, mais le Christ, lui, n'a pas la foi, et il est simplement venu nous sauver. Balthazar, lui, va dire, si, il y a quand même quelque chose de la foi qui doit animer le Fils, d'ailleurs dans l'Épître aux Hébreux, on dit qu'il est l'initiateur et celui qui vient achever notre foi, et en fait, ce qu'il y a à comprendre, c'est que dans le Christ, il y a fondamentalement, dans le temps, le Fils unique, Jésus incarné, Jésus-Christ, le Verbe incarné, va toujours vivre ce qui éternellement se vit entre les personnes. C'est-à-dire que quand le Père se donne, et c'est là que Balthazar va dire ça, en Jésus apparaît la racine commune des trois vertus théologales, le désintéressement et l'abnégation, particulièrement manifesté dans la charité, mais à l'origine de la foi et de l'espérance. Cette racine est parfaitement perceptible en lui, parce qu'il est dans le monde la plus haute révélation du mystère trinitaire. Qu'est-ce que dit Balthazar au fond ? Il dit « En Dieu, dans le mystère même de Dieu, quand le Père se donne au Fils, il le fait dans une abnégation et un désintéressement total. L'amour ne retient rien. Quand l'amour se donne, l'amour ne cherche pas à garder. » Et donc, quand le Père se donne au Fils, il donne tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. Il donne, on pourrait presque dire, toute la nature divine. Et le Fils reçoit tout dans un désintéressement égal. Et vous voyez bien que cette espèce de don absolu à l'autre, il implique comme une sorte d'élan, de mouvement total de confiance qui fait que le Père vient se reposer dans le Fils, que le Fils vient se rendre au Père en se reposant totalement en lui, entre tes mains. « Je remets mon esprit » sera sa dernière parole dans l'évangile de Luc. C'est ce mouvement par lequel le Christ, ici-bas, vient manifester son être. « Je me remets entre tes mains ». Donc, éternellement, le Fils se rend au Père, et l'esprit est leur repos commun, mais en même temps, dans le mouvement même où l'esprit est le repos du Père et du Fils, il est aussi le mouvement total. Et donc, ça, vous voyez, ça implique quelque chose de ce qu'est le mouvement fondamental de la foi. Pourquoi est-ce que nous croyons à une foi qui est aussi un contenu ? Nous croyons à un certain nombre de vérités de la foi. Parce que d'abord, nous avons mis notre confiance en celui qui est crédible. Quand Dieu donne les commandements dans l'Ancien Testament, Exode 20, qu'est-ce qu'il dit ? Quelle est la première parole que nous appelons les commandements, mais que les Juifs ont raison d'appeler les 10 paroles ? 10 paroles de recréation, comme il y a eu 10 paroles de création. Quelle est la première des 10 paroles ? Non pas un commandement, mais « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte ». C'est parce que nous savons à qui nous faisons confiance, parce que nous sommes dans ce mouvement de la foi, que la foi ensuite peut croire un certain nombre de vérités. Et donc, le mouvement du Fils éternel, ça sera, si vous voulez, de se remettre dans les mains du Père. Mais en même temps aussi, et c'est là qu'il y a quelque chose d'une espérance, c'est que dans le mouvement même où le Père se donne au Fils, il est déjà comme dans cette attente éternelle que le Fils se rende à lui. Il est déjà, vous voyez, ce don qui est à la fois totalement désintéressé et en même temps totalement dans l'attente d'une mutualité. Et ça, ça donne vraiment, vous voyez, c'est toute la plus grande qualité de la vie humaine. Toutes nos meilleures relations sont faites de cela. Elles sont faites de cette foi, de cette espérance qui ne cesse, au fond, d'aller se reposer en l'autre et finalement d'être aussi dans cette attente, dans cette patience, parfois aussi dans cette persévérance, souffrance de l'attente, souffrante de l'attente, que l'autre se rende et se donne à part. Et ce que le Fils a vécu éternellement, pour Balthazar, il va le vivre fondamentalement dans le temps. Jésus est celui qui ne vit que pour son heure, qui s'est incarné pour l'heure où il finalement, entrera dans la confiance la plus absolue au Père. Mais au fond, Jésus ne fait que vivre en recevant chaque instant de sa vie, en étant totalement appuyé dans sa confiance au Père. On peut dire en ce sens que personne n'a eu la foi comme Jésus. Voilà. C'est pas parce que sa foi est claire, c'est pas parce qu'il voit le Père, qu'en fait il n'est pas perpétuellement dans ce mouvement de se remettre à lui. Et vous voyez, il y a ce moment où, quand il ressuscite Lazare, c'était cette parole qui me bouleverse à chaque fois, où Jésus dit « Père, je savais bien que tu m'exauces toujours. Voilà. » J'étais déjà dans ce mouvement qui me faisait tendre vers l'exaucement aimant que je reçois du Père, parce que, comme je m'appuie totalement sur lui, le Père ne peut rien faire d'autre que de m'exaucer sans cesse. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que chez Balthazar, donc les vertus théologales, non seulement infusent la vie de Dieu en nous, mais elles nous apprennent la vie de l'éternité dès maintenant. Voilà. Et peut-être la vertu théologale qui est le plus celle du mouvement, qui à la fois nous donne et nous fait goûter et en même temps nous projette, bien c'est précisément cette vertu de l'espérance. C'est elle qui, au fond, donne son dynamisme de certitude aux connaissances que nous avons dans la foi, au nouveau regard qui est ouvert en nous par la foi, et en même temps, elle est celle qui sans cesse vient nous assurer que l'amour que nous perdons, que nous déperdons même, que nous sommes faits pour gaspiller, comme dit Thérèse d'Avila, hein, cette phrase extraordinaire de Thérèse que je vous ai certainement déjà citée parce que je la trouve magnifique, hein, comment dépensera-t-il et presque gâchera-t-il celui qui ne comprend pas qu'il est riche, hein, qui ne comprend pas d'abord qu'il est riche de cet amour de Dieu qu'ensuite il va pouvoir rendre autour de lui. Donc voilà ce mouvement, hein, des vertus théologales, et notamment ce mouvement de l'espérance qui va demeurer pour toujours. Je termine, ça va être une fin un peu rapide, en disant que chez Balthazar aussi, et ça sera repris par Ratzinger dans son encyclique, l'espérance ne peut pas être une espérance juste pour nous. C'est pas possible. Je peux pas juste espérer faire mon petit salut. Et c'est là que Balthazar va dire au fond, si vraiment on espère, si vraiment nous espérons les biens du ciel, alors est-il possible que nous les espérions seulement pour nous, seulement pour notre club chrétien? Ou est-ce que nous ne devons pas l'espérer pour tous les hommes que Dieu a faits, y compris ceux dont on peut dire qu'ici-bas, peut-être ils ne connaîtront jamais le nom de Dieu, ou ne le nommeront jamais de manière absolument consciente. Et là, Balthazar va vraiment entrer en dialogue avec la tradition de l'Église, parce qu'il y a une tradition de l'Église qui va dire... un grand nombre sera sauvé, mais un grand nombre aussi ne sera pas sauvé. Et c'est dans la tradition de l'Église, ça se prévaut, hein, de toute une série de paroles évangéliques où Jésus dit « Efforcez-vous de vous rendre, d'entrer par la porte étroite. Elle est étroite, il est étroit le chemin. Elle est étroite la porte, il est étroit le chemin qui mène au salut. Elle est large la porte, il est large le chemin, hein, qui mène à la perdition. » Et Balthazar va... L'argument balthazarien, hein, qui est un argument, je pense, qu'il ne faut pas négliger... Celui qui considère d'avance toute l'humanité comme une massa damnata, donc une foule de damnés, une foule qui marche vers la damnation, comment sauvegardera-t-il l'efficace de la parole du Christ ? Sur la croix, il attirera tous les hommes à lui. J'aurais dû mettre en gras jusque-là. Donc, qui est évidemment une référence au verset de saint Jean. Il en résulte nécessairement une sorte de tourment à la croix même, face à la croix. Newman écrit ainsi... Cette mer de misère qui s'étale à ses yeux a brisé le cœur de ton fils Jésus. Il ne s'est pas brisé seulement pour cette misère, mais aussi de cette misère. Donc en fait, il décrit, là, il fait référence à un texte de Newman, où Newman, finalement, imagine, hein, le cri du Christ sur la croix et le cœur du Christ qui se brise, parce que, à la fois, il se sent abandonné, mais parce qu'aussi, il voit qu'il ne sauve pas tous les hommes. Hein. Ce qui est aussi, chez un théologien comme Jean-Miguel Garrigue, un théologien dominicain, qui dit que le calice dont Jésus dit au Père que cette coupe s'écarte de moi, hein, dans à Gethsémani, c'est l'idée même que son sacrifice puisse ne pas sauver tous les hommes. Et là, Balthazar dit que Newman dit que c'est ça que Jésus ressent. Et Balthazar dit, mais comment Newman le sait-il ? De ce que Jésus n'est pas seulement mort pour tous les pécheurs, ce qui est un dogme, mais aussi de ce qu'il n'a pu les sauver parce que l'enfer... a été et sera plus fort que lui. Alors là, c'est vraiment... En fait, le cri balthazarien, c'est de dire si jamais, au fond, il y a quelqu'un en enfer, ben comment est-il possible que, alors que Dieu déploie toute son énergie, se fait homme, devient un de nous, et, quelque part, s'investit totalement lui-même dans le fait de n'en perdre aucun, comme il le dit dans un passage de l'Évangile, est-ce que si un seul manque, est-ce que cela ne veut pas dire, au fond, que eh bien, le nom, la puissance du nom a été plus forte que la puissance du oui qui est en Dieu, qui est notamment en Jésus-Christ, comme le dit saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens. C'est une vraie question, hein, et c'est une question qui nous interroge parce que nous pouvons légitimement nous demander, mais comment le ciel sera-t-il le ciel si quand moi je suis censé être un bienheureux, des gens qui ont compté pour moi ici-bas ne sont pas avec moi. Et donc en fait, ça donne, il faut bien voir que là, la portée de cette espérance pour tous, elle est de nous ramener d'abord à l'espérance de Dieu même. Hein, je rappelle les paroles de Peggy, hein, celui qui crée une créature comme Dieu l'a fait, se met à la merci de sa créature. C'est des paroles extrêmement audacieuses de Peggy, mais qui disent quelque chose du mouvement de Dieu quand il vient nous sauver. Jésus veut n'en perdre aucun. Dimanche, on avait... alors, c'est pas dimanche, c'était cette semaine. Les brebis que le Père m'a données, personne ne les arrachera de ma main. Les brebis qui sont au Père, personne ne les arrachera de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Donc, cette espèce d'engagement total de la Trinité pour nous sauver tous, est-ce que c'est possible que nous puissions opposer un non à cela? Alors, on a beaucoup reproché à Balthazar de défendre quelque chose qu'on appellerait l'apocatastase, un terme encore là très théologique. L'apocatastase, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que, en fait, à travers un grand drame de l'histoire, au fond, à la fin, eh ben, c'est comme un retour au début, les bons comme les méchants, tout le monde est en Dieu, et puis donc les choses se résolvent de manière finale, dans une sorte de résolution complète. En réalité, le livre de Balthazar est beaucoup plus nuancé que ça, et lui-même dit explicitement dans ce livre qu'il n'adhère pas, qu'il ne pense pas qu'il faille tenir l'apocatastase. En revanche, il va dire donc Origène a été condamné parce que ses disciples ont soutenu une version de la pensée d'Origène un peu édulcorée ou plutôt caricaturée, qui fait qu'ensuite il a été condamné, notamment pour avoir prêché l'apocatastase. En réalité, Origène a depuis été réhabilité par Henri de Lubac, notamment par un travail beaucoup plus précis sur les pères de l'Église. Et Balthazar, bon, qui est un grand connaisseur des pères, alors il faudrait aller vérifier chez chaque père ce que dit Balthazar est juste, parce que parfois Balthazar, il aime bien aussi lire les auteurs en les transformant ou en les lisant un petit peu selon ce qui l'intéresse. Mais notamment, il a écrit une somme sur Maxime le Confesseur, qui s'appelle... qui est un livre qui est quand même d'une très très grande acuité de lecture. C'était un immense lecteur. Et donc lui, il va dire, Origène a été condamné, mais d'autres pères de l'Église ne l'ont jamais été, bien qu'il l'ait soutenu ouvertement, Clément d'Alexandrie, Grégoire de Nice, sans compter Jérôme, et s'est démêlé avec Ruffin. D'autres l'ont proposé plus discrètement, considérant que seuls les chrétiens arrivés à maturité pouvaient l'apporter, ainsi Grégoire de Nazianze et Maxime le Confesseur. D'autre part, il est vrai, les sermons pour le peuple n'ont pas manqué, qui chauffait l'enfer pour les auditeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on disait, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous ainsi. Et c'est dans le même mouvement de ces sermons que Augustin, en tout cas Balthazar identifie chez Augustin, et c'est quand même vrai qu'Augustin va avoir dans le cadre en fait de débats sur la grâce, dans le cadre de débats où on va parfois prétendre faire son salut sans Dieu, eh bien lui, il va dire, on ne s'étonnera guère de l'insistance d'Augustin sur la réalité non seulement de l'enfer, mais encore de ses innombrables occupants. Je rappelle que l'expression « la massa damnata » vient précisément d'Augustin. Elle signifie néanmoins un tournant dans l'histoire de l'Église, car Augustin interprète les textes en question de telle sorte que, visiblement, il connaît à l'évidence l'issue du jugement divin. Et tous ceux qui se réclameront de son autorité, de Grégoire le Grand à la Réforme et au jansénisme, en passant par le Haut Moyen-Âge et le Moyen-Âge classique, y compris Anselme, Bonaventure et Thomas, tous seront, en ce sens, des gens qui savent. Alors, vous voyez, je ne vous cache pas que, vous voyez que là, Balthazar, il prend position contre quelque chose qui est très longuement tenu par la tradition. Alors, contre, non. Lui, ce qu'il dit, il dit au fond, tout son livre, Espérer pour tous, il dit au fond, il est vrai que nous sommes tous sous le jugement. Quand Jésus, en Matthieu 25, dit « J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. » Tout ce qui est dit sur le mode du jugement, en fait, c'est ce qui décrit véritablement notre condition présente. Nous sommes tous devant les conséquences possibles de nos actes, devant la possibilité d'aimer ou de ne pas aimer, devant la possibilité de nous fermer à l'amour ou de nous y ouvrir. Et lui, il va clairement dire, s'il y a un enfer, là encore, l'enfer n'est pas un lieu, l'enfer est un état, l'enfer est l'état de la personne qui s'enferme elle-même, hein, dans le refus de Dieu. Et ça, c'est déjà aussi présent, en réalité, chez les pères de l'Église. Et donc, ce que va dire Balthazar, c'est qu'il va dire, de ce point de vue-là, personne ne peut se prononcer sur cette dimension finale, parce que les versets qui sont dans l'Évangile pour dire, attention, il y a deux voies, et les deux voies ont leurs conséquences, sont des paroles qui, en fait, peuvent être généralement interprétées sur le mode, au fond, de l'avertissement, et en même temps, elles doivent être contrebalancées par le nombre des affirmations du Christ qui dit qu'il est venu pour que tous les hommes soient sauvés. Et donc, il va, finalement, son livre, toute l'entreprise de ce livre, c'est à la fois d'élargir l'espérance à tous, mais de dire, cette fois-ci, dans une espérance qui ne peut pas se prononcer. Hein. Ce qu'il va reprocher à Augustin, et en fait, il est plus nuancé que ça sur Augustin, parce qu'il va dire, si Augustin est aussi... tapotant sur la massa, sur les fidèles en disant attention, convertissez-vous, c'est parce qu'en fait il dit il faut toujours penser que quand Augustin dit ça, il faut toujours avoir en tête quelle est l'image à travers laquelle on a représenté Augustin dans l'histoire de l'Église, c'est Augustin avec son cœur enflammé. C'est parce qu'il aime tellement les hommes qu'en fait il veut absolument les avertir des conséquences de la fermeture à l'amour. Donc en fait, il dit c'est à la mesure même d'un amour absolument brûlant que Augustin va avertir avec une exigence terrible des conséquences en fait de notre liberté. Mais Balthazar lui va dire si on se prononce déjà sur ce qui est la suite, eh bien en fait cela risque d'être une des formes de la désespérance. Et là il cite Joseph Pieper. Il y a deux formes de désespérance. L'une est le désespoir, l'autre la présomptio. D'ordinaire on traduit le mot présomptio par témérité, mais la traduction par anticipation est plus littérale, tout en restituant très exactement le sens du mot. La présomptio est l'anticipation indue de l'accomplissement, le désespoir aussi est anticipation. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au fond, il y a une forme de manque d'espérance dans le fait d'anticiper déjà qu'au terme, au jugement, eh bien, il restera le désespoir chez certains d'entre nous. Anticiper déjà que le désespoir puisse prendre possession des cœurs humains, c'est en fait déjà être dans une certaine défaite par rapport à l'œuvre salvifique du Christ. Mais inversement, il dit aussi, on ne peut pas se prononcer pour dire de manière ferme, il n'y a personne en enfer. Donc lui, il va dire, notre position est une position, alors c'est très balthazarien, c'est donc très écartelé, ici-bas, pour tous les autres, j'espère, et quelque part, je laisse à la Providence le soin d'être dans la décision finale. Ce qui doit être mon mouvement à moi, ça doit être au maximum de chercher à transmettre l'amour du Seigneur pour que les gens puissent y accéder. La seule personne pour laquelle je dois trembler sans cesse parce que je ne peux pas dire trop vite que je suis sauvé, c'est moi-même. Donc je dois en fait être dans un mouvement d'immense espérance pour les autres et pour moi-même, au fond d'immenses exigences dans ma vie chrétienne en me disant ben, j'ai confiance et en même temps je ne peux pas me prononcer pour dire que je sais. Et c'est là aussi que donc pour lui, hein, il ne peut pas y avoir, et ça c'est très important sur l'espérance chrétienne, il y a eu des siècles hein, où chacun faisait son salut. Et ça à travers les travaux de Henri Lubac dans catholicisme et puis les travaux de Balthazar lui-même, hein, on retrouve cette dimension que au fond l'espérance, à partir du moment où elle nous introduit dans la relationnalité divine, ne peut pas faire abstraction d'une espérance pour tous les hommes. Et en fait, c'est là que le mouvement même de l'espérance devient le mouvement fondamental de la mission chrétienne. C'est parce que j'espère que nous y soyons tous, que ici-bas, maintenant, je dois poser les actes qui doivent rendre cela possible. Et en même temps, bien, je reste dans une sorte d'apophatisme, de refus de me prononcer trop vite, sur le fait que l'enfer serait plein ou pas. Ce qui veut dire que notre pape François, quand dernièrement il a dit « J'espère qu'il est vide, mais je ne le sais pas », et il a même dit « Ici, ce n'est pas le pape qui parle, c'est Bergoglio », il l'a dit justement en revenant à cette espérance personnelle de chacun, mais qui en fait s'ouvre à tous pour espérer le salut. Voilà. Alors, Inès a déjà froncé les sourcils. Vas-y, vas-y.
En fait, je suis un peu perturbée par ce que dit Balthazar du statut des paroles du Christ, parce qu'il est question de la destination.
Ouais.
Parce que déjà, il y a énormément d'éléments de langage qui nous gagnent la pensée qu'il est question, du dernier jugement.
Mmh. Ah bah, dans Matthieu 25, par exemple, c'est l'exemple le plus...
De placer les boucs à la gauche et les boucs à la droite. Mais aussi, cette idée de dire, alors nous sommes tous sommés jugement actuellement, parce qu'actuellement nous avons tous la possibilité de refuser l'amour ou de ne pas le refuser. Enfin, en fait, ça fait perdre un peu toute intelligibilité, je trouve, à la crainte... Enfin, déjà que personnellement on peut mourir quant à son propre salut, mais aussi est-ce qu'on citait des sermons des pères de l'Église sur la nécessité de prendre la chose très au sérieux, parce que si ça reste une affaire actuelle, enfin confinée au maintenant, est-ce que je choisis ou est-ce que je ne choisis pas, on peut toujours se dire que tant qu'on vit, le changement est possible, et donc la gravité réelle de... Alors certes, les études qu'on contracte, mais c'est pas irrémédiable, alors que si les questions de la destination finale... Enfin, là, on comprend que de fait, il puisse y avoir un discours un peu exhortatif et possiblement effrayant.
Oui.
J'ai beaucoup de mal, en fait.
En fait, ce que dit Jésus dans Matthieu 25, alors, Matthieu 25, typiquement, c'est un chapitre qui commence dans son intégralité par « Tote emoiotes etai et basileia ton uranon hein, » donc, le royaume des cieux sera semblable, etc. Donc, il va y avoir la parole des dix vierges, il va y avoir la parabole des talents, et il va y avoir en continu hein, le jugement, qui est en fait le jugement des nations, donc qui n'est pas tellement le jugement d'Israël dans saint Matthieu, mais qui est le jugement de toutes les nations, c'est-à-dire de tous ceux qui n'ont pas reçu la loi et qui seront jugés. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, l'ensemble du jugement, qui est raconté donc, sous une forme qui, malgré tout, reste parabolique, hein, parce que ramener le jugement à simplement en fait Dieu qui d'un côté dirait toi tu vas là, ça même les pères de l'Église ne le tiennent pas. En fait, très tôt on va tenir que c'est la personne elle-même au fond qui s'enferme dans le nom face à la proposition divine de l'amour. Mais en revanche, ce que va venir dire cette parabole du jugement des nations, c'est qu'en fait derrière chacun des actes que je pose ici-bas se joue précisément mon jugement éternel. Donc je ne peux pas dire au fond que ces actes c'est du corps, parce que cette parabole elle intervient juste après les dix vierges qui disent vous ne savez ni le jour ni l'heure, vous ne savez pas quand le maître viendra. Donc en fait on est dans une espèce en fait d'urgence de la charité qui intervient maintenant et qui ne peut pas se prévaloir de se dire je verrai plus tard, ni de se dire que ça sera édulcoré. D'autre part, quand Jésus parle de la géhenne de feu, parce qu'il parle aussi de la géhenne de feu, il parle des grincements dedans, très clairement, il y a aussi Jésus en tant qu'homme inséré dans des données concrètes de son époque, qui va dire de manière extrêmement forte, là encore, que toute une série d'actes mènent à la perdition, ou en tout cas à son risque, voilà. Mais ce n'est pas pour autant qu'on y met quelqu'un. Alors, dans la parabole de Matthieu 25, hein, on va dire l'enfer que Dieu avait préparé pour Satan et ses anges. Alors, c'est sûr hein, que dans la vie chrétienne, et ça, Balthazar a un chapitre aussi sur la question des anges dans son livre « Espérer pour tous », bon, je ne peux pas vous parler de tout, hein, mais il y a quand même l'idée, lui, il ne nie pas, hein, lui, il pense qu'il faut maintenir l'idée d'une chute des anges, contrairement à un théologien comme Karl Barth dans le protestantisme, parce que lui, il dit, même en étant dans l'éternité, chacun a la possibilité absolument radicale de se déterminer pour ou contre le dessein de Dieu. Simplement, nous, on n'est pas des anges. Nous sommes des êtres humains, et donc nous ne sommes pas... on n'est pas constitué pareil, on est constitué dans un... On est tous reliés les uns aux autres. Le propre même de l'humanité, c'est que nous advenons à notre humanité par d'autres êtres humains sans cesse. Donc le bien que je fais, le mal que je fais, je ne le fais jamais seul. Et je ne le fais jamais pour moi seul, et je ne le subis jamais pour moi seul. C'est-à-dire que nous sommes dans cette chaîne, c'est ça qui permet de comprendre que des gens qui naissent dans une forme de structure de péché où au fond, personne n'a de lumière sur Dieu, ben comment eux-mêmes pourraient-ils accéder si facilement que ça à cette immédiate lumière. Alors, bien sûr, on tient toujours que cette possibilité est maintenue, mais il faut aussi qu'on admette que c'est rendu beaucoup plus difficile. Et ça, nous sommes tous sous le jugement, comme dit Balthazar, mais Dieu voit où nous sommes dans la géographie, si je puis dire, de l'histoire. Et à travers ça aussi, notre espérance, notre implication, et il va dire aussi notre capacité à nous offrir pour les autres. Il va citer dans son livre les passages de l'Épître aux Romains où Paul dit « Je voudrais être anathème pour mon peuple ». Les passages d'un certain nombre de grands mystiques, et notamment de grands deux mystiques, parce qu'il y a eu beaucoup de femmes qui, de ce point de vue-là, ont été très marquantes, qui ont dit « Mais au fond, moi, je suis prête à m'offrir dans l'éternité ». Alors, c'est des paroles qu'on peut trouver excessives, mais où elles disent « Au fond, je suis prête à être moi damnée pour que tous les autres soient sauvés ». Alors en fait, on ne peut pas souhaiter ça, parce qu'on ne peut pas souhaiter nous-mêmes être séparés de Dieu pour que les autres puissent entrer. Mais fondamentalement, en fait, c'est les paroles du Christ peuvent être toujours en fait, perçues comme une sorte d'avertissement radical, en fait, que chacun de nos actes ici-bas engage profondément notre salut final. Voilà. Mais jamais indépendamment les uns des autres non plus.
La citation de Joseph Piper, j'ai trouvé ça très intéressant sur la distinction des deux désespoirs. Mm-hmm. Et je me demandais si on ne pouvait pas comprendre le désir.
La présomption, l'anticipation.
Pas seulement comme le fait d'anticiper qu'un tel sera en enfer, mais aussi dans un sens complètement différent. Je ne sais pas si ça pourrait fonctionner, mais hors contexte, ça a l'air de pouvoir mm-hmm. marcher. Qu'il y a un désir de Dieu qui est un désir par anticipation, qui est aussi indu. Ce qui peut nous détacher du présent dans lequel on est et qui serait dans un sens-là une forme de désespoir, enfin une sorte de désincarnation par excès de désir de Dieu, enfin par un désir de Dieu un peu désaxé. Je sais pas si ça a un sens, mais
si ça a un sens parce que alors pour bien le dire, hein, le désir de Dieu, il y a toujours quelque chose de fondamentalement bon, oui. Hein, mais au fond, fondamentalement dans notre être, dans ce que Maxime le Confesseur appellerait notre logos, c'est-à-dire les propriétés d'un être humain, nous avons tous été faits en fait dans le Fils quelque part pour que quelque chose en nous nous conduise à désirer Dieu et à nous retourner vers lui et à aller vers lui. Et c'est dans ce mouvement de retour vers Dieu que dès le départ la Bible place le péché fondamental comme un péché de raccourci. En fait, on avait à attendre de Dieu qu'il fasse de nous des dieux. Satan dit tout de suite, vous allez être comme des dieux. Mais là où toi tu pointes autre chose, c'est que c'est un péché qui... Enfin, c'est, en tout cas, c'est un risque spirituel qui peut être plus propre, on va dire, aux bons chrétiens qui cherchent à... C'est que parfois, on peut se laisser à la fois désespérer de ce monde et puis de se dire, bah, finalement, je préférerais être auprès de Dieu tout de suite. Hein? Ben, y a un certain désir d'être auprès de Dieu qui est en fait, qui trahit en fait une forme d'esquive par rapport aux enjeux de vivre ici-bas et de vivre ce que nous avons à vivre. Et ça, je pense que parfois, effectivement, ça mérite d'être pointé. Moi, je connais personnellement quelqu'un qui souffre de ça, mais qui est capable de le formuler, mais qui quelque part se dit, ben, en fait, j'aimerais bien être excusé de l'existence. C'est un peu ça. C'est un peu, j'aimerais bien passer direct à la case d'après. À quoi ça sert, tout cet ici-bas, tellement imparfait, tellement compliqué, tellement difficile. Voilà. Et bien, c'est là que précisément l'espérance intervient. C'est-à-dire que si je me mets vraiment à espérer, je comprends que si je suis là, c'est précisément que Dieu veut quelque chose de moi, et qu'en fait, ce quelque chose qu'il veut de moi, puisqu'il me place ici pour espérer, il va aussi déjà me donner, quelque part, de goûter quelque chose de ce sens final de mon être ici-bas. Ce qui peut s'appeler aussi notre vocation. Pour aller encore un petit peu plus loin, en fait, Balthazar, il va aussi méditer ce qu'on appelle dans la descente aux enfers. Quand nous disons que le Christ est descendu aux enfers. Voilà. Balthazar, lui, va... Alors, pas de manière très juste, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé en principal, parce que Balthazar, lui, va carrément dire que Jésus veut tellement aller nous chercher au plus loin qu'il va expérimenter la peine des damnés, la peine de ceux qui sont complètement coupés de Dieu, etc. Ça, on ne peut absolument pas le tenir. Je pense que là, c'est un endroit où je ne suis pas Balthazar. Je ne peux pas aller jusque-là. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on peut, on peut le suivre quand il parle des enfers au pluriel, au sens où les Juifs parlent du Sheol. Quand Pascal dit « on mourra toujours seul », Pascal, vous savez tous, écrit cette phrase à un moment où on ne meurt pas du tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de tenir un cierge, un autre qui a avec de l'encens, tout le monde qui prie. Donc, quand Pascal dit « on meurt toujours seul », il dit ça pour nous dire « nous allons passer la porte étroite ». Et la porte va être vraiment étroite. Parce que nous allons entrer dans la mort, qui est le fruit suprême du péché. La mort, c'est la coupure de toutes nos relations. De notre relation avec Dieu, de nos relations avec les autres. C'est l'entrée dans la profonde déréliction dans laquelle le péché a plongé l'humanité. Et donc là, lui, il dit, là, Jésus est entré. Alors, c'est là qu'il prend aussi position. Parce que jusque-là, chez les pères de l'Église, on dit toujours, Jésus descend triomphalement aux enfers, pour libérer tous les patriarches qui attendaient, etc. Et Balthazar, je pense, dit avec beaucoup de justesse, ça sert à quoi de rajouter un article au credo si c'est pour au fond dire « il est ressuscité » et nous parler du petit sas qui était fait pour les patriarches. Si en fait il descend dans la déréliction de tout homme que toute personne connaîtra en descendant dans la mort, ça veut dire que là Jésus effectivement descend au plus loin de là où il peut nous chercher. C'est-à-dire que nous descendrons dans ce lieu, hein, dans ce mystère-là. Alors c'est une option balthazarienne, hein, on peut être d'un avis un peu différent, ce sont des options, des questions théologiques qui peuvent être discutées, et je crois vraiment qu'on peut tenir que dans ce mouvement de descente, où finalement l'homme était coupé de tout, eh bien Jésus a trouvé le moyen d'être là pour que dans ce lieu, hein, de la solitude extrême et d'un regard sur notre vie, d'une rudesse extrême, pourrait-on dire, eh bien, il soit présent au milieu de tout cela. Et Balthazar achève le premier tome de La gloire et la croix, Apparition, par une vision du jugement dernier, justement. Balthazar n'est pas très... C'est pas quelqu'un qui édulcore trop les enjeux d'ici-bas, hein, pour continuer à te répondre, Inès. C'est pas trop... on se dit que tout ça, c'est cool. Non, en fait, lui, il va finir par dire, au fond, dans cette descente-là, je serai face à Jésus comme face à l'innocent suprême. Et donc, tout ce qu'il y a de mauvais en moi ne pourra pas mettre une justice. Et tout ce qu'il y a de bon en moi sera déjà tellement de son côté à lui qu'au fond, je ne pourrais presque pas m'en prévaloir non plus. L'unique ressource sera de me jeter dans les bras de sa miséricorde. Voilà. Donc, à travers ça, on comprend que notre entraînement ici-bas, hein, c'est de comprendre que la grande figure de la justice de Dieu, c'est la miséricorde. Hein, comme le dit l'épître de Saint Jacques, hein, la miséricorde, pour celui qui n'a pas fait miséricorde, eh bien, il y aura le jugement, mais la miséricorde se moque du jugement. Quelque chose là, un mouvement de l'amour divin, en tout cas de la possibilité pour nous, jusque dans la descente dans la mort, et ça je pense à tous ceux qui n'auront pas connu le Christ ici-bas, sinon à travers le fait d'avoir vêtu quelqu'un qui était nu, donné à boire, fait les gestes simples de la charité répandue dans les cœurs. Et là, il y aura cette espèce de moment décisif, hein, du choix final, alors qu'il n'est pas... Et c'est précisément le fait que Jésus soit allé habiter les enfers, c'est précisément ça qui permet la possibilité de cette seconde mort dont parle l'Apocalypse. C'est-à-dire, jusque-là, il n'y a pas de possibilité de refus absolu, mais quand nous le verrons face à face, là, le non, le plus tragique qui soit... et que nous souhaitons ne jamais prononcer, et dont je souhaite que personne ne le prononce, c'est aussi là qu'il devient mystérieusement... en tout cas, que nous en tenons la possibilité. Voilà. Mais en même temps, Dieu a... Enfin, ce qui me frappe toujours, c'est de voir à quel point Dieu descend, Dieu va loin. Vous voyez, quand Peggy, on aura Peggy la semaine prochaine, mais quand Peggy parle des paraboles de la miséricorde, il met en scène le bon bourgeois qui dit non mais quand même, je veux bien qu'il ait de la joie pour plus de joie que pour 99 justes, enfin en gros faut pas charrier, nous pendant ce temps on trime et Dieu il va chercher la brebis qui est très très loin, et puis il a absolument compris le scandale de cette parabole que Jésus raconte, mais elle dit le mystère de la miséricorde, là elle dit quelque chose de cet amour de Dieu, cette nimia caritas dont parle Saint-Paul, ce trop grand amour de Dieu. Je pense que c'est la meilleure expression pour parler de l'amour de Dieu, dire ton trop grand amour, c'est-à-dire qui excédera toujours mon amour à moi, trop étriqué, trop en attente du donnant-donnant. Voilà, je crois que Balthazar nous invite quand même à espérer large. Voilà, tout en tremblant. Voilà. Il est beaucoup trop tard. Je vois ma pauvre Catherine là au fond. Je pense à tes. Si tu veux. Et on va quand même dire les complis, hein. On va rester pieux. Mais...
De toute façon, moi, il faut que je les dise.